Excusez-moi, bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc comme prévu ce soir, nous allons projeter le film Génération Gamer qui a peur des jeux vidéo. Cette projection est proposée dans le cadre de l'exposition actuelle Cerveau et addiction. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore visitée, je vous invite à la voir. Donc elle est présentée à l'espace Mendès France jusqu'au 5 janvier. Également donc pour vous dire que suite à la projection de ce film, il y a Marion Haza ici présente donc qui est maître de conférence, psychologue clinicienne à l'université de Poitiers, qui répondra à vos questions et puis donc vous parlera de cette problématique de dépendance aux jeux vidéo. Et puis enfin, avant de lancer le film, je voulais dire aussi que cette soirée était organisée en partenariat avec la Maison associative de la santé de La Rochelle et gentiment donc il y a Bernard Guestin donc qui est le président de cette maison associative de la santé de La Rochelle, qui est présent ce soir, qui va nous dire quelques mots sur cette structure, et puis vous, plus particulièrement vous parler donc d'une manifestation qui s'appelle Image en santé en association. Voilà, je ne sais pas le titre exact. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole.
Oui, bonsoir à tous. Donc Bernard Guestin, président de la maison associative de la santé, donc qui regroupe plus de 60 associations de santé sur La Rochelle, sur 4 secteurs. Aide à la personne, handicap, maladie psychique et autres maladies. Et donc, au niveau de la Maison de la Santé, nous avons l'honneur d'avoir Hélène Nguyen qui est là et qui s'occupe justement du cycle Image et Santé, qui va vous en parler.
Très, très rapidement, hein, le cycle Image et Santé, c'est parti d'un partenariat avec le Festival international du film de santé de Liège, dont ce film, en 2012, a été primé dans la catégorie prévention des risques. Voilà, donc en 2015 et 2016, on prévoit effectivement un cycle à partir de films, soit qui ont été primés au Festival Image et Santé, soit d'autres sources, avec l'intention de proposer systématiquement des débats avec des personnes compétentes, expertes, qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels, associatifs, politiques, dans l'idée vraiment de valoriser tout ce qui se fait au niveau des régions, des territoires en matière de santé, en matière de promotion de la santé. Voilà, donc on vous en parlera, j'espère, prochainement de ce cycle, quand la programmation sera terminée. Voilà, merci.
Donc j'ai entendu des rires, donc c'est bien, le film vous a fait réagir, donc peut-être qu'il date un peu, parce que 2009 ça a sûrement progressé, je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle, donc ils pourront nous faire part de leur réaction, s'il sera sympathique. Autrement, donc Marion Haza a rejoint la tribune, donc je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas là au début, que Marion Haza est donc maître de conférence à l'université de Poitiers en psychologie, et donc gentiment, elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour vous dire déjà, dans un premier temps, quelques mots au sujet du film, puis ensuite, je pense que ce sera un échange, donc on écoutera avec plaisir vos questions. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors effectivement, après la diffusion de ce film, je vais reprendre très rapidement quelques points pour donner des pistes de réflexion et puis pouvoir alimenter ensuite un débat avec vous. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, même par rapport à ce film-là, documentaire qui date de 2008, hein, qui a été réalisé en 2008, on voit qu'il y a déjà eu une évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand changement dans la société au niveau de la place et des usages des jeux vidéo. Puisque aujourd'hui, 2014, on retrouve le jeu vidéo finalement dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire qu'au départ, le jeu vidéo, il était relégué à la maison, comme on peut le voir là avec certains jeunes dans le jeu. Mais aujourd'hui, on retrouve le jeu vidéo à l'école avec des usages pédagogiques, par exemple, pour les apprentissages. On retrouve le jeu vidéo dans le domaine de la santé, à l'hôpital, par exemple, pour pouvoir faire prendre conscience à des enfants ou des adultes, hein, parfois, de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. Enfin, donc, le jeu vidéo peut avoir cet usage-là aussi en santé. On retrouve aussi l'usage du jeu vidéo, par exemple, en psychothérapie, pour travailler différentes thématiques. On retrouve aussi l'usage du jeu vidéo dans des domaines du côté de la recherche, je pense recherche en biologie, en médecine, où par exemple, vous pouvez installer un jeu sur votre ordinateur et quand vous jouez, ça fait fonctionner le processeur de votre ordinateur relié à des milliers d'autres ordinateurs pour, par exemple, séquencer un morceau d'ADN. Enfin, voilà, donc vous pouvez participer à une communauté scientifique sans être du tout, vous, un scientifique, hein, mais en participant en résolvant certaines petites énigmes, en déplaçant des petits cubes dans un jeu. Donc on voit qu'effectivement, le jeu vidéo, il est aujourd'hui partout. Je disais, il est à la maison, mais il est aussi aujourd'hui transportable, hein, puisqu'effectivement, le jeu vidéo, on le retrouve de plus en plus avec les consoles portables et même sur nos téléphones portables. Hein, donc un jeu vidéo, on en a un dans la poche, pas 24 heures sur 24, mais presque, hein, ou sous l'oreiller. Donc il y a vraiment un rapport très particulier au jeu vidéo. Il y a du coup une grande différence aujourd'hui entre les générations, comme peut le dire Serge Tisseron, par exemple, dans le reportage, puisque, effectivement, les générations d'enfants et d'adolescents aujourd'hui, qui sont nés à l'ère du jeu vidéo, de l'existence importante du jeu vidéo, utilisent des jeux qui ne sont pas les mêmes que ceux de leurs parents. Hein, je ne reprends pas ce qu'a dit Serge Tisseron. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une différence là qui commence à s'estomper avec des parents aujourd'hui, trentenaires, qui étaient eux-mêmes joueurs quand ils étaient enfants. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose du côté d'une identification possible des enfants à leurs parents et des parents à leurs enfants, dans une compréhension possible de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, on peut imaginer que si on se revoyait dans 10 ans ou dans 20 ans, les choses auront encore plus évolué dans ce sens-là. Ça, c'est important parce que ça veut dire que les parents d'aujourd'hui, ils accompagnent davantage leurs enfants et leurs adolescents sur ces mondes numériques, Internet, jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est vraiment une évolution importante dans le lien, finalement, de génération. Le jeu vidéo, également, on voit qu'il se diversifie, on voit qu'il se retrouve chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est important d'avoir cette notion en tête. On a des jeux qui sont utilisés en famille, c'est-à-dire des moments, des temps familiaux, où enfants et parents se retrouvent pour partager, non pas les petits chevaux, mais une partie de course de voiture ou un jeu particulier, un jeu vidéo. Donc il y a vraiment des moments comme ça, familiaux, qui peuvent s'organiser autour du jeu. Ça, c'est quelque chose qui est aussi nouveau. Donc on voit vraiment des sphères qui se développent comme ça autour du jeu vidéo. Et le jeu vidéo n'est plus seulement consacré ou réservé aux geeks, aux gamers, enfin à ceux qui passent absolument 10 heures par jour sur un jeu, mais voilà, vous pouvez, je sais pas, avoir joué aujourd'hui 3 minutes à Candy Crush sur votre téléphone portable, des jeux, des petits jeux comme ça, ce qu'on appelle des mini-jeux, hein, qui sont des petits jeux qu'on peut faire, qui sont des jeux occupationnels. Hein, et on est dans une société où, une société de consommation, de rapidité, où la place à l'ennui, à la rêverie, elle est très minime. Et donc, effectivement, quand on a des espaces comme ça où on ne fait rien, on a tendance à pouvoir les combler, les remplir avec, par exemple, l'usage de ces petits jeux. Ça peut être aussi appeler quelqu'un d'autre, être en communication, mais les jeux, je patiente dans une salle d'attente, j'ai rien à faire, hop, je peux prendre mon téléphone portable et jouer 3 minutes, ou 10 minutes. Ou plus longtemps, des fois. Donc, on voit vraiment ce rapport, vous voyez, très particulier qui se développe parce que l'outil est présent différemment. C'est donc important de voir aussi que les avancées technologiques, hein, ce que vous avez pu voir dans les jeux, là, dans certains jeux, mais on voit que de plus en plus, il y a un côté vraiment très artistique dans le jeu vidéo qui est recherché. Il y a des prix artistiques donnés à des jeux vidéo. Il y a des recherches cinématographiques liées aux jeux vidéo. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des jeux qui ressemblent à des films d'animation, avec des choses qui sont vraiment très esthétiques, très belles. Et ce côté-là, c'est un côté qui attire du coup un autre public. Et c'est notamment un côté qui va attirer, dans le reportage, là, ça vous a fait rigoler, il disait, oui, les joueurs, là, ce sont des garçons parce que les filles préfèrent la messagerie et les blogs. Aujourd'hui, sur les jeux vidéo, on est à 50% garçons, 50% filles. D'accord ? Donc, il y a vraiment un engouement nouveau des filles sur le jeu vidéo, mais parce qu'aussi, il y a des jeux différents et qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus attractifs, qui sont beaucoup plus esthétiques, et je peux aller me promener dans un monde pour découvrir des paysages, parce que juste, c'est agréable à regarder, finalement. Donc ça, ça attire un public vraiment très particulier. Quelques points importants aussi, sur lesquels je voulais revenir, c'était aussi par rapport à l'âge des joueurs. Très souvent, au niveau des médias, on va cibler les jeux vidéo, enfin on va dire que les jeux vidéo c'est dangereux, hein, et que ça concerne les adolescents. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen du joueur, on parle tout joueur confondu, hein, pas les joueurs qui jouent beaucoup, enfin tout joueur confondu, c'est 32 ans. D'accord. Donc si c'est 32 ans, ça veut dire qu'il y en a qui sont petits, qu'il y en a des ados, mais qu'il y en a qui ont 50, 55 ans. Hein, si c'est la moyenne, ça veut dire que la fourchette est assez large. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés par les jeux vidéo, c'est pas seulement les adolescents. Et qu'effectivement, des adolescents peuvent se retrouver à jouer avec des personnes qui ont deux ou trois fois leur âge. Et à jouer en étant anonyme derrière des avatars, sans forcément qu'il y ait justement de différence hiérarchique ou de différence d'âge repérée. Donc on peut voir effectivement un adolescent de 15 ans, déscolarisé, qui est chef d'une guilde et qui dirige, je ne sais pas, un chef d'entreprise de 50 ans qui se connecte le soir sur un jeu. Vous voyez, donc on peut avoir des inversions de rôle qui ne seraient pas du tout imaginables en vrai. Alors, par rapport à la notion de dangerosité, au niveau scientifique aujourd'hui, première chose, c'est ce qui est dit dans le film aussi, le mot d'addiction au sens psychiatrique, ce n'est pas un terme qui est retenu pour parler des jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est un terme qui est retenu par les médias, d'accord, parce que ça fait peur et qu'on emploie ce mot-là et qu'on voit, vous avez bien entendu dans le documentaire, on dit que c'est même une addiction mortelle. Alors, au niveau psychiatrique, pas d'addiction retenue, parce qu'au niveau des caractéristiques des addictions, au niveau de certains symptômes, de manque, de sevrage, on ne retrouve pas ces critères-là qu'on peut retrouver avec différents produits, alcool, cannabis, drogue, enfin différentes drogues. Par contre, on va pouvoir parler, bien sûr, d'usage excessif ou d'usage abusif. Hein, le jeune qui passe là 12 heures par jour sur son ordinateur ou 16 heures par jour, on est bien d'accord qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal par rapport à une vie, qu'on soit adolescent ou qu'on soit adulte. Si on passe tous les jours 12 heures par jour sur son jeu, c'est qu'effectivement, on n'est pas disponible pour d'autres choses. Donc ça, ça pose un problème. C'est bien un usage abusif ou excessif. Ce qui va être important de regarder pour savoir justement qu'il y a un problème dans le rapport aux jeux vidéo, c'est est-ce que la personne qui joue a d'autres activités. Et c'est vraiment ça qui va être le point crucial. C'est-à-dire, est-ce qu'il continue, par exemple, à aller à l'école, s'il est scolarisé, ou à aller à son travail, s'il travaille, puisque celui qui a 40 ans, enfin, il n'est plus à l'école. Est-ce qu'il continue à avoir des loisirs ou des activités, s'il en avait avant, bien sûr. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, on ne va pas dire bah, il ne fait plus de sport à cause du jeu vidéo, s'il n'en a jamais fait avant. Donc, est-ce qu'il préserve des activités? Est-ce qu'il préserve des relations amicales? Est-ce qu'il préserve des relations familiales? D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un joue aux jeux vidéo, mais continue à aller au travail normalement, à passer des moments avec ses amis, avec sa famille, hein, mais que dans ses temps libres, il choisit le jeu vidéo, c'est pas problématique. D'accord? C'est-à-dire que celui qui passe 3 heures le soir devant la télé, c'est un choix d'occupation, comme quelqu'un qui va faire pendant 3 heures du piano ou quelqu'un qui va faire pendant 3 heures du jeu vidéo. Il n'y a pas une activité qui serait plus néfaste, voyez, qu'une autre. Par contre, si je passe 10 heures par jour à faire du piano et que je ne vais plus travailler, que je ne vois plus mes amis, que je ne vois plus ma famille, voyez, c'est aussi problématique que si je passe 10 heures ou 15 heures sur mon jeu vidéo. Le problème, ce n'est pas l'activité en elle-même. Le problème, c'est le temps passé au regard d'autres activités. Donc, c'est plutôt comment on va pouvoir trouver un équilibre entre différentes activités. On peut dire aussi, vous avez entendu là, par exemple, sur certains jeux, il y a la question financière. Je paie un abonnement de 15 euros par mois pour pouvoir jouer. Si je suis un lecteur et que je lis beaucoup, je peux dépenser facilement 15 euros par mois en livres. Si j'aime bien le cinéma, si je vais au cinéma une fois par semaine, j'en ai pour 30 euros de cinéma. Vous voyez, enfin, donc, la question du rapport à l'argent, finalement, si c'est un choix d'activité qui intéresse la personne, c'est pas ça qui permet non plus de dire qu'il y a un problème dans le rapport avec, avec cet objet-là. Donc c'est vraiment l'importance de voir est-ce qu'il y a d'autres activités possibles. Alors effectivement, une personne qui reste repliée sur elle-même, qui reste isolée, qui ne voit plus personne, hein, qui ne sort plus de chez elle, qui ne va plus en cours, si on prend l'exemple d'un adolescent, c'est que c'est bien un adolescent qui va mal. C'est un adolescent qui est en souffrance. Et un adolescent qui est en souffrance, il va essayer de trouver des solutions, comme il peut, hein, dans les objets qui l'entourent, pour essayer d'aller mieux. Hein, donc les solutions que va trouver un adolescent, ça va être par exemple boire de l'alcool. Hein, parce qu'il a l'impression que quand il a bu, il se sent mieux, qu'il se sent mieux dans ses relations avec les autres. Ça peut être fumer du cannabis. Ça peut être fuguer de chez lui. Et ça peut être les jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, ça peut devenir un refuge dans une situation déjà de mal-être. Et là, on est dans un dispositif, c'est pas le jeu vidéo qui entraîne le mal-être. D'accord ? Comme on va pas dire, c'est la fugue qui entraîne la souffrance de l'adolescent. C'est parce que l'adolescent, au départ, va mal qu'il fugue. Vous voyez ? Donc effectivement, on peut dire que chez les adolescents qui vont mal, il y a beaucoup plus de jeux vidéo que chez les autres, comme il y a beaucoup plus de fugues, d'alcool, de tabac, de cannabis, etc. C'est un lien de corrélation, les deux sont simultanés, mais pas de causalité. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir ça en tête. On n'a pas de causalité entre jeux vidéo et violence, on n'a pas de causalité entre jeux vidéo et dépression et suicide, par exemple. Mais effectivement, un jeune... Comme par exemple au début du reportage, hein, ce Jordan qui se suicide. Ce jeune-là, on voit bien qu'il a complètement désinvesti sa scolarité. Apparemment, il y a une histoire familiale un peu compliquée. En tout cas, il arrête les cours après le divorce de ses parents. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau familial. Mais c'est un jeune qui apparemment n'a plus aucune vie sociale et qui effectivement se replie dans sa bulle et trouve dans sa bulle le jeu vidéo. Mais dans les signes qui sont évoqués par sa mère, on voit bien des signes de souffrance de ce jeune. Et on se dit, peut-être que si, au lieu de se dire, il est derrière son ordinateur, il y passe trop de temps, mais on ne peut rien faire, qu'il aurait fallu peut-être tirer la sonnette d'alarme et faire quelque chose pour ce jeune, plutôt que de dire, au moins là, il se sent bien, alors qu'il est rien. Vous voyez, c'est le propos qu'elle a, je crois, cette maman, elle dit, dans la vie, il était rien. C'est assez violent comme parole. Donc on peut se dire, si on a l'impression que son enfant n'est rien dans la vie, peut-être qu'on peut l'aider, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose pour lui. Donc vous voyez, chez ce jeune-là, il y a un suicide qui n'est pas lié au jeu vidéo, il y a un suicide qui est lié à sa souffrance, et effectivement, il avait essayé de trouver une solution à travers le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on va bien différencier les jeux vidéo qui sont des jeux vidéo solitaires, qui sont de plus en plus rares aujourd'hui, puisque même les jeux vidéo qui étaient des jeux auparavant solitaires, aujourd'hui ce sont possibles en ligne, en réseau avec d'autres personnes. D'accord ? Je ne sais pas, Tetris par exemple, le jeu de briques là, qui s'emboîte dans tous les sens. Ce jeu aujourd'hui, qui était un jeu solitaire avant, qui a été ensuite développé, vous pouviez connecter quand c'était les Game Boy, deux Game Boy ensemble, déjà pour jouer à deux. Aujourd'hui, vous pouvez jouer en réseau avec une personne à l'autre bout du monde. Donc on voit bien qu'il y a des jeux qui étaient au départ des jeux très individuels, qui permettent aussi d'être en relation avec d'autres. Et donc on va distinguer le jeu solitaire des jeux en réseau qui entraînent forcément un lien avec d'autres personnes. Ce qui veut dire que l'adolescent qui ne va pas bien, ou l'adulte, qui est seul dans sa chambre, en train de jouer à un jeu en réseau, finalement, il y a quand même un acte de socialisation. C'est-à-dire qu'il est quand même en lien avec d'autres personnes, même s'ils ne se sont jamais rencontrés réellement. Il y a quand même un lien avec d'autres et il y a des places à respecter. Vous avez vu là dans le reportage, quand on joue à des jeux de rôle en réseau, hein, comme par exemple il parle de World of Warcraft ou Dofus hein, pour les plus jeunes, dans ces jeux-là, il va y avoir des responsabilités à prendre. Hein, c'est ce qu'explique aussi Pierre-Jean. Hein, voilà, il dit bien, j'aime bien commander, je suis le responsable du groupe, etc. Donc effectivement, dans le jeu, on va avoir un rôle particulier. Finalement, comme dans la vie. Hein, on a des rôles auxquels on est attendu, hein, et on doit se plier aussi à certaines fonctions. Donc, on peut avoir un apprentissage dans le jeu vidéo de certains rôles sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour certains jeunes qui peuvent se retrouver complètement largués, dévalorisés dans le système scolaire, par exemple, hein, je pense notamment, et qui peuvent, dans le jeu vidéo, trouver une place dans un groupe, être responsabilisés, qu'on ait confiance en eux, qu'on leur demande conseil pour faire telle ou telle chose, et ça, ça les revalorise. Et ça peut leur permettre justement de retourner affronter leur classe, de retourner affronter les personnes qui sont à côté de lui en chair et en os. Donc il y a vraiment tout ce passage-là qui peut être fait, vous voyez, entre être seul, mais seul dans sa chambre, hein, mais en lien quand même avec d'autres personnes, et le fait de pouvoir être à nouveau en lien avec d'autres personnes. On voit bien, dans l'exemple du dernier garçon, on voit bien qu'il dit « bah ouais, moi j'aimerais bien sortir avec mes potes, aller dans les bars ». C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement replié sur lui-même. Il y a toujours ce côté social là qui reste important. L'élément important également, c'est celui du côté là de la valorisation. On l'entend avec Sébastien, là, quand il dit justement, dans un jeu vidéo, quand on fait quelque chose, on nous dit, on nous remercie, on nous dit que c'est bien, etc. Ça, c'est vraiment le fondement du jeu vidéo, notamment dans ces jeux de rôle hein, en réseau, puisque, à la différence du système scolaire, hein, je reprends par rapport à ça, mais dans le système scolaire, on va considérer que par classe de niveau, il y a des acquis particuliers. Hein, et qu'un enfant qui est à un niveau, en CE1 par exemple, il doit être capable de faire certaines choses. Hein, et donc on fonctionne comme ça par classe, par niveau. Et donc quand un enfant n'a pas acquis certaines bases, ben, s'il est en CM2, on va considérer qu'il est censé quand même avoir ces bases-là. Et donc on va lui demander des choses en lien avec ce qu'il est censé savoir faire. Et donc on peut avoir des enfants qui se retrouvent complètement en échec parce que s'ils ne savent pas, je sais pas faire la soustraction, ils ne peuvent pas comprendre la division. Mais on part du principe que s'ils sont en CM2, ils doivent savoir faire la division. Donc on va interroger sur ça. Dans le jeu vidéo, quand on démarre le jeu vidéo, on va nous demander des petites missions, comme ils disent là, et on va nous demander des missions qui sont complètement en lien avec ce qu'on est capable de faire. Ce qui fait qu'au départ, dans le jeu vidéo, vous allez être sans armes, vous allez être vêtu d'une petite chemise légère, un petit pantalon léger, et on va vous dire, ah ben on vous attendait déjà, hein, déjà de la reconnaissance, hein, heureusement que vous êtes arrivé, justement j'ai mon cousin qui habite à l'autre bout du village, j'ai une lettre à lui porter, mais là je dois partir absolument faire quelque chose, donc je ne peux pas lui amener, mais c'est vraiment très urgent, est-ce que vous pouvez aller à l'autre bout du village lui amener ? Donc vous êtes en train de jouer, donc vous avez que ça à faire. Donc vous allez aller amener la lettre à l'autre bout du village. C'est un village qui est tout à fait ami avec vous, donc il n'y a pas de danger, vous le traversez, vous arrivez de l'autre côté, vous amenez la lettre. La personne qui réceptionne la lettre est très contente que vous lui ayez cette lettre qu'elle attendait, et elle va vous remercier énormément, et puis elle va vous donner un petit bâton, par exemple, hein, pour vous remercier, voilà, un petit cadeau. Et elle va vous dire, ah, par contre, juste à côté, il faudrait que vous alliez voir ma voisine, c'est une vieille dame, et elle entend des bruits dans son grenier, donc vous allez voir la vieille dame, qui vous remercie d'être là, et elle vous dit qu'elle entend des bruits, qu'elle pense qu'il y a des souris dans son grenier, est-ce que vous pouvez l'aider? Voilà. Donc vous allez dans le grenier, il y a 3 souris, vous avez votre petit bâton, vous donnez un petit coup de bâton sur chaque souris, vous les assommez, vous en débarrassez, la vieille dame qui vous remercie parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'elle avait ses petites souris, et elle va vous donner quelques pièces d'or qui vont vous permettre d'aller acheter un petit couteau, etc. etc. Et donc, quand on vous demande des missions, c'est que vous avez les moyens de les réaliser. Jamais on ne vous demandera d'aller affronter un énorme monstre au fin fond d'une grotte quand vous êtes juste avec votre petite chemise en tissu et votre petit bâton. C'est pour ça que je dis que c'est différent du système scolaire. C'est-à-dire que là, dans le jeu vidéo, vous êtes sûr d'y arriver. Et si vous y arrivez, vous allez être valorisé, récompensé. Donc ça, pour des jeunes qui sont en difficulté scolaire, voyez, et qui, chaque jour, reviennent avec des mauvaises notes, etc., ils trouvent là un espace où ils font des choses et ils y arrivent. Donc ça peut être très valorisant pour eux, justement, hein, de se réapproprier des choses par ce biais-là. Donc ça, c'est un point qui peut aussi expliquer pourquoi certains jeunes aiment bien retourner dans le jeu vidéo. D'accord ? Si, à chaque fois qu'ils sont à l'école, c'est le calvaire pour eux, mais que dans le jeu vidéo, bah, ils trouvent un espace là, de respiration, forcément, ça, si on vous dit à choisir, bah, vous pouvez passer 5 heures dans un endroit où c'est hyper désagréable et 5 heures dans un endroit où c'est très agréable, normalement, vous allez dire, je vais plutôt aller là où c'est agréable. Ça paraît tout à fait logique. Alors, par rapport à ces éléments-là de valorisation, ce qui est très important aussi, c'est le rôle des autres, hein, ce qu'on a vu. Et donc, la répartition qu'il va y avoir dans un jeu vidéo, notamment dans les jeux de rôle en réseau, hein, qui sont ceux qui sont les plus chronophages. Hein, parce que les jeux, vous avez entendu, ils parlent d'univers persistant, parce que les jeux continuent en fait sans arrêt. C'est-à-dire que si on fait une partie de Monopoly, on arrête la partie, on va manger, on revient, normalement, sauf s'il y a un tricheur, rien n'a bougé sur le plateau du Monopoly. Tandis que là, si je me déconnecte et que je reviens, des choses ont changé. Si j'avais mis par exemple des objets en vente, ils ont été vendus, alors que moi j'étais déconnectée. Il s'est passé des choses en mon absence. Donc effectivement, c'est quelque chose qui continue sans cesse. Ce qui donne envie d'aller y retourner pour savoir ce qui se passe. Donc, par rapport au groupe là, dans ces jeux, chacun va donc avoir un rôle particulier pour réaliser des missions. Et plus on augmente dans le jeu, plus on va être obligé finalement de jouer avec d'autres pour pouvoir réaliser les missions. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau, tout seul, je ne pourrai pas me débrouiller. Hein, d'accord. Pour tuer les 3 souris, on n'a pas besoin d'être 15. Par contre, à un certain niveau, il faut être plusieurs avec, comme vous l'avez vu dans le documentaire par exemple, un qui va être plutôt un guerrier qui va attaquer les autres, un autre qui va être celui qui soigne, différentes fonctions, un guérisseur, différentes fonctions comme ça que vont avoir chaque joueur. Alors là, ça va nous donner le lien avec justement la responsabilité des parents face à un jeune qui joue aux jeux vidéo. Quand un jeune est en train de jouer à un jeu, et qu'il est engagé dans une mission avec d'autres joueurs. Hein, imaginons, je joue avec un groupe, on est 10, il y en a qui attaquent, et moi je les soigne. On est dans une grosse mission avec vraiment un gros monstre à détruire, et le monstre, quand il attaque, il fait vraiment du mal, donc il faut vraiment que je soigne tout le temps. Si à ce moment-là, mon père ou ma mère arrive et me dit « C'est l'heure de manger, tu es un ordinateur. » Je dis « Mais non, je ne peux pas là. » « Oui, arrête, tu es un ordinateur. » « Non, non, mais je ne peux pas. » Donc, « Mais si, tu arrêtes l'ordinateur. » « Non, je ne peux pas. » Et clique la prise débranchée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour les autres, prise débranchée, ben, les guerriers qui étaient en train d'attaquer, au bout de 5 secondes, ils sont tous morts puisque je ne suis plus en train de les soigner. D'accord ? Je me reconnecte plus tard ou le lendemain et je dis, bon, ben, on refait la mission. Ils vont me dire, ben non, on a pris un autre soigneur parce que ben, toi, ça faisait 2 heures qu'on avait démarré la mission, on était presque au bout et là, tu nous as lâchés, donc ben, nous, on ne peut plus compter sur toi. D'accord ? Ce qui veut dire que quand on ne respecte pas ce sur quoi on s'est engagé, son rôle sur lequel on s'est engagé, on est éjecté du groupe. Ça, ça marche dans les jeux vidéo comme partout, hein, comme dans la vraie vie. Alors, ça ne veut pas dire que l'adolescent, il peut décider et dire « Ben non, on mangera dans 2 heures parce que là, j'ai ce monstre à tuer et je dois soigner les autres. » Mais ça veut dire que si on s'intéresse, vous avez vu dans les différentes interviews là, des parents, si on s'intéresse aux jeux vidéo, c'est-à-dire que si on questionne son enfant ou son adolescent sur ce qu'il fait dans le jeu, à quoi il joue déjà ? Qu'est-ce qu'il y fait ? Même si on ne s'y intéresse pas plus que ça. C'est une activité comme une autre. D'accord ? On peut très bien avoir un enfant qui fait, du judo. Le judo, ça ne nous emballe pas plus que ça. On ne connaît pas les règles, mais on peut, quand il rentre du judo, lui demander « Alors, ça s'est bien passé ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il va expliquer « J'ai fait telle prise. » Ok ? Enfin, on n'est pas forcément passionné, mais on peut s'intéresser quand même comme une activité parmi d'autres. Donc, est parti jouer un petit peu. Donc, s'intéresser à une activité, s'intéresser à l'activité, ça peut permettre effectivement de comprendre certaines choses. Et si on s'intéresse, on peut voir que dans ces jeux-là, dans ces jeux de rôle, on peut à certains moments faire des missions. Les missions, on sait à peu près combien de temps ça va durer. Mais on peut aussi, à d'autres moments, fabriquer des objets, ramasser des petites fleurs dans les prairies. On peut pêcher, on peut discuter avec les autres de stratégie. Donc on peut faire des activités qu'on peut arrêter n'importe quand. Ce qui veut dire que si il est 7h30 et qu'à la maison on mange à 8h, je peux dire je vais jouer, mais si je sais que j'ai une demi-heure, je ne vais pas démarrer une mission qui dure 2 heures. Mais je peux quand même jouer en faisant quelque chose qui s'arrête au bout d'une demi-heure, qu'on peut arrêter au bout d'une demi-heure. Donc en tant que parent, si je sais qu'il y a des choses différentes dans les jeux vidéo, je peux dire à mon ado ou à mon enfant, ben là tu fais quelque chose que tu peux arrêter, c'est-à-dire que maintenant je sais que tu n'es pas obligé de faire des missions de 2 heures ou de 3 heures ou de 4 heures. Et du coup, je sais que tu as possibilité de faire quelque chose qui peut s'arrêter au bout d'une demi-heure. Et par contre, si tu commences une mission qui dure super longtemps, ben là, on va débrancher la prise. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont posées et clairement établies, après, il y a la question du respect ou de la transgression. Mais ça veut dire qu'en tant que parents, on retrouve des adultes qui, finalement, récupèrent leur rôle de parents, d'adultes vis-à-vis des enfants ou des adolescents. Ce n'est pas parce qu'un enfant naît aujourd'hui et que le jeu vidéo existe énormément, qu'Internet existe, qu'ils savent s'en servir et qu'ils connaissent toutes les règles. Et en tant qu'adulte, on est garant de la sécurité. Et ça, même si on n'y connaît rien, il y a des règles de base. Hein, c'est-à-dire, tu insultes pas les autres sur le jeu, tu respectes les règles. Enfin, comme quand... si on envoie un enfant au judo, même si on ne connaît pas les règles, on peut lui dire « Tu écoutes l'entraîneur, tu respectes ce qu'il dit, tu insultes pas les autres, tu fais attention à toi, tu fais pas n'importe quoi avec ton corps, tu fais attention. » Dans les jeux vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que les règles de base qu'on inculque aux enfants, en tant que parent, même si on ne connaît pas spécifiquement les jeux vidéo, on peut s'y référer. Et après, il y a des outils comme par exemple, je ne sais pas là, mais les normes PEGI, P-E-G-I, que vous pouvez trouver sur Internet en tapant. C'est ce qui permet de voir pour chaque jeu vidéo les critères d'âge. Vous savez, comme pour les films, interdits au moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans, etc. Sur les jeux vidéo, c'est pareil, ça existe, cette norme-là, avec l'explication de pourquoi c'est interdit. Parce qu'il y a des insultes racistes, par exemple, ou parce qu'il y a des propos à caractère sexuel, ou parce qu'il y a de la violence. Vous voyez ? Donc ça permet, même si on ne connaît pas du tout un jeu, si on voit qu'il est interdit au moins de 18 ans, même si on a un ado qui a 13 ans et qui dit « Mais tous mes copains l'ont, je te jure, je vais être vraiment nul à la récré si je n'ai pas ce jeu », on peut justifier. On peut expliquer pourquoi ce n'est pas adapté à son âge, même si on ne connaît pas du tout. Et je crois que c'est ça l'importance, c'est que les adultes, même s'ils ne connaissent pas l'outil précisément, puissent se repositionner en tant qu'adultes. Et c'est ça qui permet aussi aux adolescents de bien grandir, de bien utiliser ces objets-là et de ne pas rentrer justement dans des usages qui soient excessifs ou abusifs. C'est-à-dire qu'ils sont aussi un peu perdus, comme on voyait là dans le reportage, à devoir eux-mêmes se poser des limites par rapport au jeu, parce que ben, en tant que, qu'adulte, on peut se dire on ne connaît pas, donc on les laisse faire. Mais ce n'est pas parce qu'à 2 ans, ils comprennent comment utiliser une tablette qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment il faut faire. Hein ? Vous êtes né, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table, enfin, vous êtes né, la voiture existait, mais est-ce que vous saviez conduire ? Non. Hein ? Donc, on voit bien que ce n'est pas parce qu'un objet existe hein, que forcément, on sait déjà l'utiliser. Donc c'est important, vous voyez l'objectif là, et puis on va passer aux questions, c'est pas de faire l'apologie du tout du jeu de vidéo, mais c'est essayer de dédramatiser tout ce qu'on peut entendre aussi de façon médiatique, parce que si on en fait un objet tabou, comme tous les objets tabous, on les laisse à distance, on s'y intéresse pas, et du coup c'est là qu'on laisse les adolescents se perdre avec cet objet. Donc ce qui est important, c'est vraiment de reprendre cette place-là, en sachant que le jeu vidéo, ça fait partie du quotidien de beaucoup de personnes et que c'est vraiment important de voir en termes, pas seulement de quantité, hein, de nombre d'heures passées, mais plutôt d'autres activités possibles hein, à côté du jeu vidéo. D'accord ? Si je dis c'est pas en nombre d'heures parce que un jeune, enfin, ou un adulte hein, qui attend la sortie d'un jeu vidéo, il peut attendre la sortie, il travaille, mais là demain on est vendredi soir, il y a un jeu qui vient de sortir là cette semaine. Demain soir, il se met sur le jeu vidéo, il y passe la nuit, il dort un petit peu, mais il y passe son samedi, il y passe son dimanche. Est-ce que ce jeune-là, forcément, il est dans un usage abusif du jeu vidéo ? Si il a prévu un petit temps quand même pour faire ses devoirs pour lundi, à ce moment-là, c'est un peu comme si ben, vous aimez lire, il y a un livre qui sort d'un auteur que vous adorez, et vous allez l'acheter, et vous allez le lire, vous allez passer tout le week-end à le lire. Et des amis vous appellent, vous disent, on sort ce soir, ben non, en fait, je suis occupée, voilà, parce que vous avez envie de finir votre livre. Et là, c'est bien que c'est une activité que vous aimez. Et on ne confond pas, attention, passion et addiction, c'est important de différencier les deux. C'est-à-dire qu'on peut passer du temps sur une activité sans être addict. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas en termes de nombre d'heures, hein, mais plus de possibilités d'avoir d'autres activités. Et alors, pour faire un petit parallèle hein, historique, c'est important aussi de voir que l'apparition du téléphone fixe, par exemple, hein, c'est quelque chose qui a été vu comme un moment très inquiétant, puisque l'idée qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'avec le téléphone, les personnes n'allaient plus jamais se rencontrer, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus jamais de contact charnel entre les personnes, hein, puisque le téléphone était là. Donc on voit qu'il y a toujours des objets qui amènent des peurs particulières, hein, et qu'on a eu aussi des craintes avant qui sont apparues sur l'usage excessif et abusif des romans. C'est-à-dire qu'avant le jeu vidéo, il y a eu d'autres objets qui sont apparus aussi comme prenant trop de place chez certaines personnes. Je m'arrête là et puis on peut passer à des questions si vous voulez.
Merci Marion. Je ne sais pas si le deuxième micro fonctionne. Oui, peut-être. Donc voilà, oui, ça fonctionne. Donc si vous avez des questions, des témoignages, des réflexions par rapport au film ou par rapport à ce qui a été dit, le micro est à vous.
Merci. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on a vu, sur ce que vous avez dit aussi. Moi, chacun prend ses responsabilités, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je dis que le diable se présente toujours de diverses manières. Il se présente, par contre, toujours de la manière la plus banale. Et il se montre toujours très charmeur. Voilà. La deuxième chose, on parle des adultes. Moi, je côtoie beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Je suis particulièrement frappée par le fait qu'un certain nombre d'adultes se comportent de plus en plus de manière adolescente. Les adultes sont des adolescents, malheureusement. Je trouve que peu de gens se posent des questions sur toutes ces nouvelles technologies qu'on nous présente pour nous rendre la vie tellement agréable et tellement facile qu'on en devient de plus en plus dépendant. On est des moutons. On s'achète le dernier truc qui sort. Ah, le lendemain, on est arriéré parce que ça y est, un nouveau truc arrive. Ça fait plaisir à tout le monde. Personne ne se pose des questions. Moi, je trouve qu'au fond, il y a une seule chose qui m'intéresse. Je trouve peu de choses là-dessus. Et c'est quand même pas par hasard si j'en trouve peu. Moi, j'aimerais savoir tous ces gens qui nous mettent tout ça à notre disposition. On n'arrête pas le progrès. Qu'est-ce qu'ils ont en fait derrière la tête? C'est ça qui est intéressant de savoir. J'ai découvert récemment, et là encore, j'étais pas surprise, tous ces cadres de Apple Pie et machin et trucs, et tous ces grands cerveaux-là qui nous proposent des choses magnifiques. Eh bien, voyez-vous, ces gens-là, ils veulent surtout pas que leurs enfants aillent dans des écoles où il y a des ordinateurs. Ça, il n'en est pas question. Il faut qu'ils soient éduqués à l'ancienne, comme on dit. Ils ne sont pas fous, ces gens-là. C'est quand même pas par hasard. Et pourquoi nous, dans notre système éducatif, il faut toujours plus d'ordinateurs? Toujours plus. Les nouveaux programmes, c'est ça. Ça va apporter la solution miracle depuis le temps qu'on cherche à enseigner d'une manière efficace et qu'on voit qu'il n'y a rien qui marche. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait le bon choix. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Quand vous dites, après tout, peu importe les activités, ce qu'il faut, c'est pas être déconnecté totalement. Je ne suis pas médecin, mais on ne me fera pas croire que passer 2 heures sur un jeu vidéo comme ça et 2 heures dans un livre, ce qui se passe ici, c'est la même chose. Ça, on ne fera jamais croire ça. J'y crois pas du tout. Quelles sont les répercussions à court et à long terme? Sans parler des ondes qu'on prend quand on est sur les portables et les ordinateurs. Ça, on n'en entend pas parler, il ne faut pas le dire. Il y a quand même des conséquences médicales. Voilà.
C'est vrai que ça me fait penser à 2 ou 3 choses quand même. La manipulation, le fait qu'on est chronovore, le fait qu'on est dans la solution d'évitement par rapport aux enfants. C'est vrai que des fois, la vie, c'est tellement dur qu'on va chercher des solutions de fuite ou d'évitement ou d'évasion. Donc là, on a, c'est vrai que quelque part, quelqu'un qui n'a pas le recul ou quelqu'un qui n'a pas le contrôle, c'est vrai qu'on peut lui faire, on peut lui mettre beaucoup de choses dans l'esprit, quoi. C'est-à-dire peut-être normaliser la violence, normaliser le sexe, par exemple, pourquoi pas, hein. C'est l'objet, la personne en face, c'est l'objet, c'est pas le sujet, quoi. C'est le rapport avec les individus entre eux qui peut être effectivement modifié. Et puis tant que justement on est peut-être occupé, l'esprit est occupé, il y a peut-être le manque de recul aussi pour réfléchir, pour occuper les gens. Et tant qu'on occupe les gens, eh bien, on anesthésie l'esprit peut-être. C'est ce que je pense. Enfin, c'est juste une petite réflexion, je ne sais pas. On occupe les gens, vous voyez. Parce que je pense qu'effectivement, elle est en train de nous faire avaler quelque chose. C'est normal, par exemple, actuellement, de toucher peut-être que 900 euros. Puis on va diminuer les paliers comme ça, les paliers de réflexion, d'abêtir. Et moi, je pense aussi en France, je suis en train d'observer ce qui se passe en France. On est en train de soustraire l'esprit entrepreneurial en France, où les cerveaux, on les vide de France, parce qu'on a quand même un esprit assez frondeur, un esprit de réflexion, et je pense que tout en haut, et même au-delà de la France, et même au-delà de l'Europe, eh bien, il y a des gens qui tirent les ficelles. Et c'est vrai que le patron de Google, effectivement, là, Zuckerberg, c'est ça, ils ne veulent pas de ça, hein. ils ne veulent pas, ils évitent. Hein. Les gamins ne vont peut-être pas passer 4-5 heures sur les jeux vidéo. Et c'est vrai que les élites, les enfants d'élite, je peux vous dire une chose, ils sont préservés. On leur fait faire des choses, style des stages très sportifs, etc. Mais ils sont confrontés à des choses sur le terrain et non pas des choses virtuelles. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais dire, je voulais rebondir là-dessus.
Merci. Il y a une question, une réaction.
En fait, oui, c'est une réaction aussi suite aux deux discours qu'on vient d'entendre, sur le, notamment les écoles des élites là, dont vous parlez. C'est vrai que pour l'école française est un peu différente là-dessus, c'est effectivement. Mais c'est les écoles Waldorf et Steiner qui sont utilisées aux États-Unis dans la Silicon Valley. Et ils ont tout compris, en fait, parce que pour pouvoir développer, pour pouvoir être à la tête de ces entreprises-là, il faut de la coopération, il faut du travail en équipe, il faut de la créativité. Et ces choses-là, ils se sont rendus compte que le numérique, ils allaient l'acquérir de toute façon. Et que cette coopération, on la retrouvait dans ces écoles d'artisanat où ils allaient développer, travailler la matière, etc. Et je pense que, je ne sais plus où je voulais en venir, mais tout ça pour dire ça. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur de nombreux points. On s'est un peu éloigné du sujet, je trouve, sur les jeux vidéo. Et moi, je rejoins un peu Marion Hazard sur le fait que dans le reportage, on a entendu, notamment un jeune, que dans les jeux vidéo, il n'y a pas de vie sociale. On a entendu une mère qui disait que la mère de Jordan, qui s'était désocialisée. Et moi, je crois vraiment, alors j'ai été joueur, plus ou moins, enfin pas du tout addict, mais bon, j'ai joué, j'ai testé, et j'ai pu me faire une idée sur la chose, et je pense vraiment qu'il y a une vie sociale. Je suis persuadé. Alors, elle est différente de la vie entre guillemets réel, mais c'est quand même des gens réels qui sont derrière leur ordinateur. Donc le fait de, comme je sais plus ce que vous disiez, madame, sur le fait d'abêtir, je crois, ou d'abêtir ou d'isoler, ben moi je ne trouve pas du tout qu'il y ait une question d'isolement.
Oui, mais par rapport aux deux remarques que vous avez faites, hein. Le point moi, sur lequel je vous rejoins, c'est effectivement quand on parle de personnes fragiles, soit parce que c'est des ados en construction et qu'ils n'ont pas ce recul-là, comme vous dites, soit des adultes qui sont dans des moments difficiles. Le Sébastien qui est au chômage, ou quelqu'un qui est dans un moment où effectivement le jeu vidéo, ça peut paraître un peu la solution de facilité parce que c'est beau, c'est... Voilà. Ouais, mais la télé, c'est plus... Voilà. Moi, je suis plus inquiète sur un jeune qui passe 15 heures devant la télé que 15 heures devant les jeux vidéo. Parce qu'il est tout seul face à la télé, là. Et c'est-à-dire qu'il gobe des choses, des informations, et qqu'il n'est pas en interaction avec... il n'a pas d'action. C'est-à-dire que même un joueur de jeux vidéo qui est à un moment donné tout seul, face à son jeu, il a une action sur le jeu. Alors que dans la télé, face à la télé, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça pose vraiment la place des adultes et la place des parents qui sont là pour accompagner, enfin, ce que vous venez de dire, moi, ça vient conforter ce que je dis, de les parents doivent être là, présents, pour accompagner ces jeunes et pour pouvoir leur dire, bah, là, c'est trop, ou là, attention, ce que tu es en train de voir, c'est pas ça, la vraie vie. Et c'est bien là le rôle des parents. Mais comme c'est le rôle des parents par rapport à des relations, parce que les relations en chair et en os, c'est pas tout le temps super bien, enfin... On ne rencontre pas que des gens bien, non plus. Et donc, c'est bien le rôle des parents de pouvoir alerter sur certaines choses, d'être vigilant à certaines conduites des adolescents, à certains comportements, à certaines paroles, et de pouvoir expliquer des choses sur la violence, sur la sexualité, etc. Mais sur la violence, par exemple, ce qu'on entend de façon médiatisée très souvent, c'est dès qu'il y a un meurtre, une tuerie, un jeune qui tue plusieurs personnes, etc. Le premier témoignage, souvent, c'est il jouait à World of Warcraft. C'était un joueur de jeux vidéo. Il y a un raccourci qui est fait comme ça, de façon très rapide, souvent. Il faut savoir que les personnes qui sont en train de jouer aux jeux vidéo, le jeu vidéo, c'est dans le mot du jeu. Et quand je suis en train de jouer, je suis en train de faire semblant. D'accord ? Des enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens, ils font semblant, un d'être le cow-boy, l'autre d'être l'indien. Et à un moment donné, le cow-boy tue l'indien. D'accord ? Pan, t'es mort. Et l'autre, il tombe. En vrai, il n'est pas mort. Et d'ailleurs, l'autre lui dit, c'est bon, t'es plus mort. Enfin, hop, il se relève. D'accord ? Les enfants, ils sont bien dans le jeu. Dans le jeu vidéo, C'est du jeu aussi sur une surface qui est particulière, qui est le numérique. Mais c'est bien du jeu et le joueur a bien conscience qu'il est en train de jouer. C'est-à-dire qu'il a conscience que quand il est en train de tirer sur un personnage, ce sont des pixels qu'il est en train, de tirer sur des pixels et pas sur une personne. Et donc, quand on n'a pas un trouble psychiatrique qui fait qu'on confond la réalité et l'imaginaire, et le virtuel, ça rentre dans l'imaginaire, on ne va pas terminer sa partie de Counter-Strike, sortir et abattre des gens dans la rue. D'accord ? Parce qu'on sait qu'on vient de terminer le jeu. Et du coup, on n'est plus dans la même action. Effectivement, chez des personnes qui ont un trouble psychiatrique de l'ordre de la psychose et qui n'arrivent pas à faire la distinction entre leur réalité, hein, ce qu'ils imaginent, et la réalité, là, on peut voir quelque chose comme un continuum de cette violence. Mais ça touche 1% de la population. Donc 1%, je ne parle pas des joueurs, hein, 1% de la population. Donc c'est vraiment des personnes qui sont dans des troubles psychiatriques graves, hein, qui vont confondre effectivement le jeu et la réalité. Il y a des questions au fond d'abord.
Oui. Ouais, donc c'était juste pour réagir suite, je crois que c'était le propos de la première dame. En fait, il y a un truc qui me tracasse, c'est que j'ai l'impression que dans la majorité, il y a beaucoup de parents qui, pas forcément qui comprennent pas ou qui peuvent pas comprendre, mais qui n'ont pas cherché à comprendre les mécaniques et les aboutissants d'un jeu vidéo, toutes ces mécaniques, et puis pourquoi les jeunes jouent aux jeux vidéo, pourquoi ça peut être intéressant, parce que vous parliez de la différence entre jouer 2 heures un jeu vidéo et lire un livre pendant 2 heures. Il y a des jeux qui ont un propos, qui ont un message, qui ont un parti pré-artistique, qui ont des références, c'est vraiment construit, c'est pas juste pam pam boum boum qu'on peut, enfin c'est des raccourcis qui existent, et malheureusement enfin il y a plein de jeux comme ça que les gens forcément n'y pensent pas trop, qui ont un vrai propos et qui sont intéressants parfois autant qu'un livre, sachant que dans la livre il y a des très bons livres mais il y a aussi des très mauvais. Et en fait, voilà, il y a ce souci, je pense, que de compréhension du jeu vidéo. Moi, j'étais un très gros joueur de MMO, mais vraiment, c'était pas les MMO, donc les jeux persistants, les jeux de rôle. Pendant 2 ans, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Alors, je sais pas encore moi-même si c'était de l'addiction ou pas, mais je sais qu'en termes d'heures, c'était beaucoup. Et je suis encore joueur, même si maintenant j'ai tout. C'est vraiment pas du tout le même rythme parce que, je suis en études supérieures, j'ai d'autres occupations. Mais je pense qu'il y a ce souci d'incompréhension que ce média, ce médium dans l'art, qu'est le jeu vidéo. Et en fait, il y a un souci aussi, c'est que vous parliez de la télé tout à l'heure. C'est que dans le jeu vidéo, dans les médias de masse, entre guillemets, on va justement critiquer les jeux vidéo pour leurs addictions potentielles, etc. Jamais pour leur qualité, enfin j'ai jamais vu, ou c'est rarissime. Et surtout dans ces cas-là, si on parle de ce média qui est donc sur un écran, pourquoi on ne parle pas de la télévision, où là pour le coup c'est de la passivité absolue. Et la télévision c'est beaucoup plus... c'est encore plus, pas popularisé, mais présent dans nos maisons. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a ce souci là.
3h30 par jour en France en moyenne, devant la télé.
Pour 3h30.
Merci pour ce témoignage.
Bah, moi, en fait, je voudrais juste réagir et rebondir sur ce qu'il disait. Et c'est juste pour dire qu'il y a eu plein de recherches dans la littérature, psychologie, etc., pour dire que les jeux vidéo ont aussi beaucoup d'aspects positifs et les livres également, mais c'est juste des aspects différents complètement. Par exemple, un jeu de tir comme Counter-Strike, il va vraiment développer les réflexes, etc. Et bah, c'est vraiment positif. Et les gens, après, ils ne vont pas sortir dans la rue, comme vous le disiez, et tuer des gens, mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs et il ne faut absolument pas les oublier. Et donc, du coup, en fait, il a dit quasiment tout ce que je voulais dire. Mais bah, je voulais juste rajouter qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches et qu'il ne bah, faut pas l'oublier. Et que c'est comme pour la télé, quand elle est arrivée, on a fait beaucoup de recherches. Enfin, du coup, le jeu vidéo, ça, les recherches sont en pleine explosion. Et donc, il n'y a vraiment pas que du mal. Et il y a aussi beaucoup de positifs. Mais les gens ont tendance à vraiment l'oublier. Et ces recherches ne sont pas très, très célèbres et très publiées. Mais si on se renseigne un tout petit peu, on voit vraiment très vite que c'est, ça peut être aussi très positif, même s'il y a du négatif derrière, comme dans partout en fait. Voilà.
C'est-à-dire que l'objet en lui-même n'est pas dangereux, l'usage peut l'être. Hein? Mais comme votre voiture. C'est-à-dire que la voiture en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Par contre, si je conduis n'importe comment, c'est hyper dangereux. Mais pour revenir aussi à une de vos remarques... Hein, c'était effectivement quand je disais qu'un jeune passe 2 heures sur un jeu vidéo ou 2 heures à lire ou à faire du piano. Enfin, je disais, pour moi, c'est équivalent. Là, je me positionne d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que par rapport à l'état de santé psychique d'un jeune, c'est équivalent. Après, au niveau de ce que ça va produire, au niveau de la pensée, de l'imaginaire, effectivement, on est sur des modalités différentes, donc ça ne va pas développer les mêmes choses. Mais tout comme entre faire 2 heures de piano et lire 2 heures, ça ne va pas développer les mêmes sphères, ça ne va pas avoir les mêmes enjeux. Donc effectivement, on est sur des choses différentes, on est sur des acquis, hein, des possibilités qui vont être différentes, et il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. C'est-à-dire que pour certains, faire du piano, ça va être horrible. Et pour d'autres, il va y avoir que ça de possible. Et lire un livre, ouvrir un livre, ça va être quelque chose d'insupportable. Donc je crois que c'est ça qui est important aussi de voir après. C'est le rapport de chacun à différentes activités. Hein, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas égal par rapport à des activités. Il y en a qui vont aller courir une fois par semaine. Il y en a, si on leur demande ça, ils vont dire « Non, là, je préfère tout sauf aller courir. » Et ça ne veut pas dire que les personnes qui ne vont pas courir sont forcément en mauvaise santé, etc.
Oui. Plusieurs choses à dire. La première, ça serait que je suis très étonnée de la moyenne d'âge du public et agréablement surprise parce que je m'attendais à ce qu'on soit entre vieux. Donc, alors qu'en fait, on est, mon mari et moi, parmi presque les plus vieux de la salle. Et donc, je suis agréablement surprise, puisque le sujet intéresse des jeunes. Et agréablement surprise, parce qu'on voit que ces jeunes, finalement, ils s'expriment parfaitement bien. Ils n'ont pas un niveau culturel qui est complètement à ras des plaquettes. Parce que,
on les a sélectionnés.
On ne sait pas. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, par rapport au reportage, même si effectivement il a vieilli, moi j'ai retrouvé toutes les problématiques que je me suis posées en tant que parent sur le sujet. C'est-à-dire que moi, on a un fils qui est champion de France dans un jeu donné. Il est 3e mondial dans ce jeu donné. Nous, on est passé par toutes. Ça fait 8 ans qu'il joue à ce jeu. Presque 9 ans, même 9 ans. Et on est passé par tous les stades, du doute au rejet... jusqu'à la diabolisation, jusqu'au moment où on a compris qu'il fallait quand même qu'on s'implique et qu'on cherche à comprendre. Donc ça aussi, on est passé dans ce stade-là. Après, là, on est passé par le stade où on considère que c'est un sport. Bon, un sport, notre jeune, parce que là, on parle plus d'adolescent, parce que là, les jeunes qui sont intervenus, c'est pas des adolescents. Donc, le jeu, maintenant, ils ont commencé peut-être adolescents, mais ils ont 24, 25 ans, jusqu'à 28, c'est ce que vous disiez. Donc, pas notre âge, parce que nous...
Vous pourriez jouer aussi. Vous pourriez jouer aussi.
Je pourrais, c'est générationnel, je dirais... Alors, justement, entre parenthèses, je lisais jusqu'à 5 heures du matin.
C'est pas bien.
Bon. Alors je voudrais enchaîner juste sur un point qui n'a pas été abordé mais qui me semble important, c'est donc le jeu vidéo en tant que sport, enfin e-sport, parce qu'il y a eu la Paris Games Week avec le SWC. Donc voilà, c'est un sport, il y a plein de spectateurs.
Reconnu depuis peu, effectivement.
Bah, je ne sais même pas si c'est reconnu. En fait,
il y a des manifestations qui se passent quand même, effectivement.
Mais par la direction de la jeunesse et des sports, je ne pense pas. Il n'y a pas de fédération d'e-sport, il pourrait y en avoir.
Je crois qu'il y a les premiers bacs qui sont passés avec option e-sport.
Voilà. Alors, juste un point, je voudrais rajouter juste deux points à titre de témoignage. La seule chose dont on ne parle pas, il faudrait quand même parler, puisqu'on parle de sport, il faut quand même parler aussi du dopage, parce que le dopage, ça existe dans l'e-sport aussi, et il faut en être conscient, donc notamment par le biais de certains produits comme le Red Bull ou autres boissons à base de caféine, taurine, la taurine étant un excitant, mais c'est dans les substances interdites, en fait. Pas interdites, mais bon, voilà. Et autres adhérales, parce qu'il y a aussi ça c'est une substance interdite en France. Voilà, donc les dopants, ça n'a pas été abordé, mais ça pourrait l'être. Et la dernière chose, c'est que, effectivement, nous, on en est venu effectivement à considérer que ce qui est important, c'est le temps passé au jeu par rapport au temps passé dans les activités extérieures. Et actuellement, ce qui nous inquiète chez notre fils, c'est que c'est entre parenthèses ce qu'on appelle un no life. Enfin, s'il s'appelle comme ça. Et donc, en fait, il passe énormément de temps. Il a fait ses études correctement, mais il passe énormément de temps. C'est-à-dire que là, il est à 10 à 12 heures par jour. Est-ce que c'est normal, compte tenu que c'est un sport, compte tenu qu'il est premier français, compte tenu que... je ne sais pas à quoi en penser. Il ne fait que ça, quoi. Voilà.
J'ai envie de dire, ce à quoi on peut comparer, ce sont des jeunes, par exemple, qui sont en sport-études ou qui sont dans des équipes nationales de foot, voyez, où on peut se dire, le jeune qui s'entraîne 7 ou 8 heures par jour, ça va paraître moins inquiétant que d'être derrière un écran. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est est-ce qu'il y a des moments où il peut décrocher de ça quand il est moins dans les moments d'entraînement, de compétition, etc. Et qu'à ce moment-là, il retrouve des possibilités d'autres activités. Enfin, si c'est ça, en gros, si le jeu vidéo, ça devient un métier, ce qui est le cas pour... Il y a des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui sont concepteurs, qui sont testeurs des jeux vidéo. Enfin, il y a toute une industrie autour du jeu vidéo aussi. Donc, quand le jeu vidéo, c'est son métier, c'est aussi important... Enfin, c'est normal d'y passer du temps. D'accord ? C'est-à-dire que le comptable qui passe 12 heures par jour à faire de la compta... On ne va pas forcément dire qu'il est addict à la compta. Oui. Mais comme dans tous les sports. Donc effectivement, des fois au prix de sacrifices.
On arrive au cerveau.
Par rapport aux produits dopants ?
Oui, oui.
Oui, tous les processus de plaisir, la question du plaisir.
On va prendre une dernière question.
Il y avait aussi le monsieur devant là, qui avait levé la main il y a longtemps.
Alors, moi, je voulais revenir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, sur le traitement du jeu vidéo dans les médias. Et notamment, moi, je pensais aux médias télévisés. Il posait la question de savoir... Pourquoi est-ce qu'on parlait autant du jeu vidéo et en mal dans les médias, notamment télévisés, et qu'on ne parlait pas beaucoup de la télévision ? Moi, j'aimerais prendre un peu le problème de l'autre côté. C'est que je pense que c'est une piste, éventuellement. Il y a deux possibilités qui expliqueraient pourquoi les médias télévisuels, notamment, parleraient des jeux vidéo comme un problème. Un, une méconnaissance totale du sujet, qui normalement devrait être palliée par du travail de journalisme et du reportage, ou deux, peut-être un intérêt à ce que les jeunes arrêtent de jouer aux jeux vidéo, parce que quand ils jouent aux jeux vidéo, ils ne peuvent pas regarder la télé, puisqu'ils sont devant le jeu vidéo.
Il y a aussi l'effet communauté. C'est-à-dire que par rapport aux joueurs de jeux vidéo, il y a un effet de groupe qui est vraiment très présent, justement parce que c'est quelque chose qui est assez attaqué. Donc il y a une communauté, une identité de joueurs qui se crée. Et on voit justement, enfin, il y a eu des épisodes il n'y a pas longtemps avec Antoine Decaune, etc. Enfin, sur des critiques du jeu vidéo à la télé, où des communautés de joueurs, de gamers, se sont mobilisées pour qu'il aille jusqu'à faire des excuses. Enfin, donc on voit bien qu'il y a aussi tout ce côté-là, un peu de pouvoir de masse qui existe aussi du côté de la société des joueurs de jeux vidéo. Et qui peut faire peur. À l'autre côté, du côté de la télé.
J'espère que je n'interromps pas un débat. Deux questions bien, bien précises. On a dit il y a quelques années qu'il ne fallait plus que les petits-enfants avant l'âge de 5 ans ou 6 ans aient accès aux écrans. Il y a quelques années, on trouvait que les télétubbies, c'était super pour les petits. On s'est aperçu que non, il ne fallait pas d'écran avant 5 ans ou 6 ans. Est-ce que c'est l'écran de télévision, les choses passives? Est-ce qu'on a testé scientifiquement? Est-ce qu'on a commencé à montrer, voir comment un enfant réagissait avec une tablette, par exemple, et tout? Est-ce que ce qu'on dit là pour l'écran, ça inclut également l'écran interactif, c'est-à-dire la tablette? Et pour revenir à ce qui avait été dit auparavant, est-ce qu'il a été comparé de façon comparable dans des études? Le fait que des actes violents en série, comme les passages à l'acte avec les fusillades, des choses comme ça, est-ce que c'était les gens qui passaient à l'acte étaient ceux qui avaient été plus soumis à des écrans, des choses passives, puisqu'on dit effectivement qu'un gamin américain a vu des milliers de meurtres, de cadavres, de choses comme ça, en étant devant la télé, en faisant autre chose, hein, ses devoirs et en mangeant. Et est-ce qu'on on a pu le comparer avec des gens qui avaient une pratique des jeux vidéo? Est-ce que ça avait été scientifiquement comparé? Parce que moi, je pense que c'est différent. J'ai des enfants qui sont joueurs, comme tout le monde, et effectivement, moi, je suis affolé quand je les vois tirer, dégommer, l'hémoglobine qui part dans tous les sens et tout. Et on a dans la famille des gens qui sont chasseurs. On s'est retrouvé un jour chez un armurier. Il y avait un stand de tir. Et j'ai dit, on va aller tirer. Et on s'est retrouvé avec des vraies armes. Eh bien, les joueurs, ils ont eu la trouille des vraies armes. Ils ont dit, mais c'est effroyable, ça fait du bruit, ça sent mauvais, et puis on peut se faire mal. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un distinguo. Quoi.
Une différence. Mais alors, pour revenir sur la dernière question, d'abord, la question des images violentes auxquelles on est soumis, dans le jeu, comme je disais tout à l'heure, on sait que c'est pour de faux, puisque c'est du jeu. Dans les films, on sait aussi que c'est faux, c'est-à-dire que le sang, c'est du ketchup, tout ça. Mais quand on allume notre télé et qu'on tombe sur les infos, vous voyez, les enfants, ils sont soumis aussi à ces images-là. C'est compliqué de les préserver. Enfin, jusqu'à quel âge on ne regarde jamais les infos pour éviter que les enfants voient des images où là, on ne peut pas leur dire. Non, là, en Syrie, non, c'est du ketchup, t'inquiète pas. Enfin, non, c'est vrai. Enfin, du coup, des images violentes, les enfants, ils ne sont pas préservés du tout, même depuis petits. Et même en faisant attention, vous passez devant le libraire, il y a la une de Paris Match avec des cadavres remplis de sang. Enfin, donc ces images-là, ils y sont soumis tout le temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des mots sur ça. Et effectivement, dans le jeu vidéo, il y a une manipulation de la violence, de la question de la mort aussi, puisque ben oui, il est mort, puis il ressuscite. Enfin, ils savent bien que ce n'est pas comme ça, en vrai. Mais par contre, là, il y a une maîtrise de quelque chose. Alors qu'effectivement, dans le rapport réel aux armes, comme ce que vous décriviez tout à l'heure, ben, ça apparaît comme quelque chose qui est vraiment dangereux parce que c'est non maîtrisable. Alors après, sur vraiment les comparaisons entre la vision d'images violentes et les jeux vidéo, sur ça, je ne sais pas s'il y a eu des études qui comparaient vraiment les deux comme ça. Mais en tout cas, chez les jeunes là, qui ont commis comme ça des massacres, on voit qu'il y a bien d'autres explications familiales, de leur histoire de vie, enfin psychiatriques aussi, bien souvent, qui expliquent ces gestes-là, et que ce n'est pas juste la question du jeu vidéo. Enfin, c'est comme si on prenait un autre élément séparé, qu'on disait, voilà, enfin, il mangeait tel aliment, donc c'est ça qui explique. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un élément en particulier. La première question que vous aviez posée, c'était par rapport aux écrans. Ce qui avait été, c'est notamment Tisseron hein, qui a fait un manifeste justement pour l'interdiction des écrans avant 3 ans, hein, et notamment l'interdiction des chaînes de télé avant 2 ans, les chaînes qui étaient spécialisées pour les tout-petits, hein, pour les bébés. En fait, par rapport au développement psychomoteur de l'enfant, c'est-à-dire le développement de toutes ses capacités au niveau de, vous voyez, l'appréhension, les capacités visuelles, etc. Effectivement, laisser un enfant devant un écran, tout seul, la télé babysitter, pratique. Mais laisser un enfant tout le temps devant la télé, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'interaction avec les autres, déjà, puisque l'enfant, il se construit aussi à travers le regard de l'autre, dans les échanges. Hein. Donc, s'il est face à la télé, il n'est pas du tout dans... Il n'est pas porté par l'autre, comme ça. Donc, il n'y a pas les interactions sociales qui sont indispensables au tout début de la vie. Et il n'est pas non plus dans des manipulations d'objets, c'est-à-dire que face à l'écran, il ne manipule rien. Alors, sur les tablettes, il n'y a pas encore assez de recul pour pouvoir avoir des résultats, mais effectivement, il y a quelque chose où il y a des manipulations possibles, puisqu'on déplace des objets. Donc, à mon avis, ça change des choses. Après, on ne peut pas se baser là sur des résultats scientifiques. Mais en tout cas, on n'est plus dans le même rapport de la passivité face à l'écran. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est dans les premières relations, jusqu'à 3 ans, on va dire à peu près, effectivement, de développer tout ce qui est moteur et tout ce qui est relationnel à deux ou à plus, mais en tout cas de ne pas laisser l'enfant isolé. Ce qui là vient perturber effectivement son développement à la fois psychique et psychomoteur. Ensuite, ce qui est assez déconseillé, on va dire, c'est pas interdit, c'est par exemple l'usage des consoles portables avant 6 ans, parce que justement jusqu'à 6 ans, on est plus dans le développement moteur, où on est dans la motricité fine, que ce soit au niveau des bras, des jambes, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir manipuler des objets, de pouvoir construire des choses, assembler des Legos, vous voyez, être dans quelque chose qui est concret. Ça, c'est les recommandations, 3 ans, 6 ans. Ensuite, dans les autres recommandations, c'est 9 ans, pas d'Internet tout seul, enfin, pas d'Internet non accompagné avant 9 ans, et pas d'ordinateur dans la chambre de l'adolescent avant 12 ans. Donc ça, c'est les recommandations, c'est 3, 6, 9, 12, hein, les tranches d'âge comme ça. Parce qu'effectivement, avant 9 ans, l'enfant, il ne peut pas tout seul savoir si ce qu'il est en train d'aller voir sur Internet, c'est bien ou pas bien. Il ne peut pas anticiper pour savoir ce sur quoi il va tomber. Et on peut tomber sur tout et n'importe quoi hein, sur Internet. Et pas d'ordinateur dans la chambre avant 12 ans, parce qu'avant 12 ans, c'est pareil, on ne peut pas demander à un adolescent ou à un préadolescent tout seul de gérer son temps sur l'ordinateur et de savoir bon ben là c'est bon c'est l'heure j'éteins parce que demain j'ai cours. Enfin à 12 ans ils n'ont pas encore la capacité à se poser ce cadre tout seul, c'est aux parents de le poser, et donc si on leur met l'objet dans la chambre, ben la tentation est grande de s'en servir.
Voilà, on a parlé d'heure, je m'excuse, mais là, on va conclure donc cette soirée. Merci au public pour leur intervention. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes, parce que j'anime souvent des conférences, et moi aussi, j'apprécie que le public jeune soit au rendez-vous. Merci beaucoup à Marion Aza donc, pour ses précisions, et puis j'espère que donc, les informations qui ont été données lors de cette soirée vous permettront d'alimenter votre réflexion. À bientôt, bonne fin de soirée, au revoir.